Je suis né à Avignon et mes parents habitaient à Chiné. J'ai fait mes premiers pas là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans et demi. Donc mes parents avaient un troupeau de chèvres, faisaient des céréales. Il y avait une source à la maison, mais mes parents n'étaient pas propriétaires, ils étaient locataires de la maison. J'ai fait mes premiers pas là-bas et j'ai de très bons souvenirs. Hein. Et puis ensuite, mes grands-parents maternels ont pris la retraite à Vergol. Et donc, mes parents avaient le choix de rester soit à Chiné, soit de prendre la succession de mes grands-parents maternels. Et donc, jour en 66, mes parents ont décidé de déménager. Donc, on est parti à la maison familiale à Vergol. Et puis, la vie a changé parce que c'était plus du tout la même chose. On avait une propriété plus importante. On était chez nous, hein, enfin, chez mes parents, quoi. Chez mes grands-parents, qui étaient toujours là, qui sont restés encore quelques années. Mon grand-père gardait les moutons. Ma grand-mère s'occupait du jardin, on vivait pratiquement ensemble, avec des appartements séparés. Mais par contre, le gros problème, c'est qu'on n'avait pas de courante. On n'avait que des citernes, donc récupération d'eau de pluie. À l'époque, il pleuvait beaucoup, hein. L'hiver, on arrivait à avoir 80 cm de neige, tous les hivers. Donc la neige tombait au mois de décembre, dans les années 70, 65, 70, 75 même. Et tous les hivers, on avait droit à 40, 50, jusqu'à 80 cm de neige. Et il fallait vivre avec, hein. Il fallait nourrir les moutons et les animaux. C'était une rente de la maison, hein, très importante. Et puis, c'était la vie agricole, hein. Couper le bois, mes parents coupaient le bois, mes grands-parents, on se chauffait avec. Et puis on passait l'hiver comme ça, tant bien que mal. Et puis au mois d'avril-mai, on commençait à préparer le jardin pour l'été et pour les victuailles de l'hiver suivant. Ensuite, le tilleul commençait à mûrir au mois de juin. Donc on cueillait le tilleul pendant une semaine, 10 jours. Et ça, mes parents le vendaient tout de suite, parce que bon, c'est le premier argent qui rentrait dans la maison, hein, parce qu'on avait passé l'hiver en serrant la ceinture, hein. Tout le monde, c'était de la survie, c'était même pas de la vie, c'était de la survie, hein, parce que c'était quand même pas la vie d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Et ensuite, il y avait les moutons et les chèvres à les garder tous les jours, le marchand de fromage qui venait une fois par semaine, on était ravitaillés par le boulanger Bonifaci, hein, tu as connu, Bonifaci qui venait à la maison, enfin qui venait à Vergol, parce qu'il venait toutes les maisons. Il apportait le pain, il apportait le saucisson, il apportait le café, les pâtes, etc. Hein. Et mes parents prenaient la nourriture pour la semaine pratiquement. Et ça s'est passé pendant plusieurs années. Ensuite, l'été, on coupait la lavande, bien sûr. Hein. Couper la lavande, quand on allait garder les chèvres, on coupait la lavande, ça faisait partie du complément de la journée. Hein. Des journées très pénibles, mais bon, ça faisait partie de la vie de ce moment-là. Hein. Et puis, après arrivé le mois de septembre, on ramassait les amandes, on ramassait les noix. Et puis, le soir, on faisait ça, c'était un très très bon souvenir. On n'avait pas la télé. Non, les télés, à Vergol, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Tout juste, on venait d'avoir l'électricité, donc c'était déjà pas mal. Hein. Là, le soir, entre les voisins, il y avait M. Rousse, le naine, on appelait le naine, qui venait à la maison. Deux ou trois fois par semaine, qui venait nous donner un coup de main pour préparer les amandes, nettoyer les amandes pour pouvoir les vendre après. Donc il fallait enlever la peau des amandes, donc mes parents mettaient un tas sur la table, et puis on était 4, 5, 6 autour de la table, et puis on nettoyait les amandes 3 fois, 4 fois par semaine à peu près, grosso modo. Hein. Et puis après, c'était le gâteau que ma mère avait fait, ou ma grand-mère, un petit canon de vin, une petite sucrerie, et puis après, quand c'était pas trop tard, hein, on faisait la petite balotte. C'est sympa, quoi. C'était vraiment des très bons souvenirs. Et puis, au mois d'octobre, il n'y avait plus trop d'activités agricoles, hormis les labours, préparés pour l'année d'après, hein, bien sûr. Pour les jardins, après, il y avait le cochon de la maison, bien sûr. Hein. Mes parents prenaient un cochon toutes les années, au mois de juin. Il est levé tout l'été, jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, on tue le cochon pour faire le jambon, toutes les charcuteries. Hein. La salaison, le fromage de tête, les saucissons, le boudin, et tout ce qu'on peut faire avec un cochon. Hein. C'était vraiment... l'hiver, on était bien content d'avoir ça. Hein. Puis ma mère faisait aussi des conserves de légumes. Mes grands-parents participaient beaucoup aussi au travail de la ferme. Et puis ils faisaient les conserves de légumes, de tomates, conserves les coulis de tomates, les carottes en conserve, toutes les courges, ramasser les courges, les pommes de terre, et tout ça a été à la cave. Et mes grands-parents avaient encore une petite vigne et ils faisaient un petit peu de vin. Mais bon, ça c'était sur la fin, la vigne était en fin de vie. Donc on buvait très peu de vin à la maison, juste un verre par repas, quoi, hein. C'était déjà pas mal. Mais mon grand-père avait des ruches, donc il avait un petit peu de miel aussi. Et ma mère et mes grands-parents faisaient aussi de nougatine, ce qu'on appelle de nougatine, hein, avec des amandes émincées et broyées, puis faisaient avec du miel, faisaient du nougat. Ça c'était très bon aussi, hein, c'était... On ne voit plus, maintenant il y a des formes de nougat qui sont tout à fait différentes. Mais... Après l'hiver arrivé, au mois de novembre-décembre, on se préparait pour l'hiver, la neige qui allait tomber, et puis on recommençait le cycle de vie. Quoi, hein.
Est-ce qu'on pouvait quitter Vergolles quand il y avait beaucoup de neige?
Oui, difficilement, parce que en fait, j'avais un voisin, Dany, si tu te rappelles, non, pas comme ça, qui habitait chez Mout, là-haut. Il y a un petit vieux qui s'appelait Denis Chauvet, on l'appelait le Danis.
Oui.
Denis Chauvet, qui habitait la maison là où habite Helmut maintenant. Et il venait, quand Bonifaci venait pour les ravitaillements, il venait tout, il avait 75-80 ans, mais bon, il était très voûté, il avait du mal à marcher, mais il venait, il descendait à pied de Vergolles, il n'avait pas de moyens de locomotion, il n'y avait pas de chemin pour accéder à sa maison, il y avait un sentier, il descendait par le sentier, avec son cabas sur le dos, il venait chercher son saucisson, son litre de vin, et son pain, alors quand il venait à Boniface, il venait souvent en fin de matinée, hein. 11h, 11h30, midi. Il mangeait le midi, Denis Chauvet venait manger avec nous. Et puis, il restait tout l'après-midi, discuter. Il avait les jambes croisées, là, d'une manière très. Moi, je ne pouvais même pas le faire, même quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à le faire. Et il restait assis, et il parlait, il aimait bien parler, quoi. Mais ça, c'était une fois par semaine, sinon, le restant de la semaine, il ne voyait personne. Donc. Il avait ses 6 chèvres, il avait sa petite citerne. Sa tranche de saucisson et son pain, et il vivait comme ça. Il avait un petit poil à virus, hein. Il mettait ses morceaux de bois dedans, et puis il passait l'hiver comme ça. Hein. Mais il n'y avait pas d'isolation, on ne parlait pas d'isolation à cette époque-là. Hein. Il y avait les tuiles dans le grenier au-dessus de sa chambre, il y avait juste les tuiles, hein. il n'y avait pas d'isolation, absolument rien. Et il ne se plaignait pas du froid ni quoi que ce soit, c'était un dur de la vieille, quoi, hein. C'est le cas de le dire, hein, parce que il vieillissait. On disait, mes grands-parents avaient toujours peur qu'un jour on le retrouve mort de froid. Quoi. Et puis, oh, il survivait, il était. Alors quand il ne pouvait pas descendre, quand il y avait un mètre de neige au pouce, chez nous il y avait 70-80 cm de neige, mais chez lui il y en avait 20 cm de plus. Quoi. Il en avait un mètre 10, quoi. Et donc il ne pouvait pas descendre. Donc c'est les pompiers, donc les anciens pompiers de mon voisin, hein. Les Yveveux, les Tardis, il est arrivé un peu sur la fin, mais. Yves Guilini, Jean-Lo Chabran, je vais oublier tant d'autres, hein, parce que bon, c'était pas toujours la même équipe. Ils venaient en voiture, c'était leur voiture personnelle, parce que c'est une voiture de pompier, je ne me rappelle plus très bien, mais ils n'avaient pas les mêmes véhicules qu'aujourd'hui. Donc ils avançaient jusque chez moi, et un petit peu plus loin jusque là, où habitait Gilbert maintenant, même chez Monique, des fois, quand ils pouvaient, parce que bon, il y avait quand même le chasse-neige. Dès qu'il y avait le chasse-neige qui venait à chaque fois qu'il neigeait, hein, on restait 24-48 heures sans chasse-neige, mais bon, ils venaient assez régulièrement. Et donc les pompiers avançaient le plus possible, puis après ils mettaient toutes les victuailles dans les sacs, et puis ils montaient à deux ou trois, ils montaient voir le Danis là-haut, dans la mètre de neige. Et il y en a qui, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis, mais ils doivent encore se rappeler, hein, parce que c'était pas de la tarte. Hein. Donc ils montaient. Et il redescendait pour nous donner de nouvelles, parce que nous, on n'avait pas de nouvelles de lui, donc il passait à la maison, il nous racontait ce qu'il avait vécu, quoi. Enfin, si ça allait, si le Danis Chauvet allait bien, donc on était rassurés, déjà c'était pas mal. Hein. Et puis il y avait le Rousse, le nain, le Rousse Gène, hein, qui vivait aussi tout seul là-bas, un petit peu dans les mêmes conditions d'ailleurs. Hein. Une maison un petit peu plus grande, mais il avait son petit poil, hein, son petit. Il avait sa petite moto, mais plus cher, quand il avait 80 cm de neige, il ne laissait pas de sortir non plus. Hein. Donc, où on allait le voir, où lui était beaucoup plus accessible, parce que pour aller chez lui, c'était beaucoup plus près déjà. Et puis, il venait aussi quand le boulanger Boniface y venait aussi. Donc, c'est quand le boulanger venait, hop, c'était un petit peu la réunion des voisins et tout, c'était sympa, quoi. Ils étaient bien contents de se retrouver, d'avoir un peu de nouvelles de mon moi, parce que pendant un mois, même des fois, quelques fois, jusqu'à la fin février, on avait la neige, donc... Et puis, il faisait froid, hein, c'était vert glacé, donc... C'était des périodes un peu difficiles, mais bon. Et le nain, lui, il avait la particularité de fumer du tabac gris. Il avait un briquet avec de l'essence, hein, de l'essence de l'époque. Hein. Et quand il éclairait ça, il avait un gros nez. Il avait tout le temps la traînée de fumée sur le nez. Hein. C'était rigolo, ça, c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie. Parce que bon, c'est vrai que c'est... Puis bon, c'était vrai que... Sur un des services, l'été, au mois de juillet, là, au mois de juin, quand on ramassait le tilleul, tout le monde venait pour nous donner un coup de main. Pour ramasser les fourrages, c'était pareil, ils venaient nous donner un coup de main. Après, les voisins se rendaient service entre eux. Donc, on allait chez le nain pour ramasser son, avec le cheval, hein, on n'avait que le mulet, on n'avait pas de tracteur à l'époque, c'était le mulet, la charrette, le tombereau pour mettre le fumier dans les champs pour avoir un petit peu de fourrage pour les animaux. C'était un travail très pénible. Moi, je sais que mes parents m'ont envoyé au travail, mais ils m'ont formaté. Hein. Ouais, c'était bien, quoi. C'est vrai que c'était un très bon souvenir. Ouais.
Et puis
l'école, mais l'école, j'étais. L'école. Mais j'étais avant l'école, j'étais à l'école à mon bois, bien sûr. À la neige, ouais. Ah ouais, je descendais. Ben après c'était rare qu'on reste sans chemin dégagé, donc Châtenay, j'étais en passé. Alors, le Châtenay, c'était le tracteur de coopérative qui venait. Avec les traves, hop, il faisait la trace, et mon père, tant bien que mal, il me descendait en moto, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, pas de moyens de locomotion, donc mon père me descendait à l'école à Montbrun. Et j'étais en pension chez Léo. Oliva, enfin les parents de Léo, parce que Léo était encore enseignant à Paris à cette époque-là. Et il venait un petit peu l'été avec son frère Jean-Yves, tu te rappelles. Mais sinon, c'était les parents de Léo qui me gardaient. J'étais à l'école à Montbrun, j'étais en pension chez eux. J'étais très bien d'ailleurs, c'est vrai que j'étais vraiment très bien accompagné. Et puis le samedi, je remontais à Vergolles, et puis je passais le week-end à Vergolles, et puis le lundi matin, je redescendais. C'était comme ça.
À pied ?
Non, c'est mon père qui venait me chercher en moto, ouais, souvent. Non, à pied, genre, pratiquement jamais. Très très rare. Si mon père ne venait pas me chercher, c'est qu'il ne pouvait pas, ou quelquefois il était malade, pour ça, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, mais sinon, je suis rarement remonté. Ou mon grand-père venait me chercher, quelquefois aussi. Hein. Il avait une moto aussi, donc. C'était la même. Mais bon, mon grand-père était un peu plus âgé, donc. Mon grand-père avait déjà 72 ans, 75 ans. Donc lui, il gardait les moutons surtout. Mais bon, il s'occupait bien, il nous accompagnait bien, il nous aidait beaucoup. Hein. C'est vrai que c'était quelqu'un de très actif dans la maison. Et lui, il avait eu la... On était mes grands-parents étaient propriétaires de la maison de Joselas. Tu connais la maison de Joselas, au lieu de la chapelle, là. Et c'est une maison... Alors, je parle pas de mon voisin Lina et Clémence. Tu te rappelles de ces gens ?
Non, pas de ceux-là.
Qui ont habité la maison où habitait Denise Vanier avant, sous M. Barbier. Mmh. Et ça, c'est des gens... Ben, on n'était pas trop collés, enfin, pas trop... On se fréquentait, mais sans plus. La maison de Joselas, le monsieur qui était là-haut était décédé, et cette maison avait été mise en vente. C'est une maison qui avait la particularité à Vergolles d'avoir une source. Et c'est la même source qui alimente la maison de Murat. Chez Hélène Murat, il y a une source aussi. Et c'est la même source, c'est une source qui coule sur le rocher. Et à l'époque, c'est une source qui est une conque. Ce qu'on appelle une conque, c'est... maintenant, elle a été fermée, on ne peut pas la voir, mais ça a été creusé dans le rocher. C'est une espèce de tunnel qui fait 11 mètres de profondeur, mine de rien, c'est quand même pas rien. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les matériaux. Vous pouvez imaginer qu'il y avait maintenant, les machines qu'il y avait maintenant, c'est creusé tout à la main, c'est creusé dans le rocher qui faisait 1,50 m de large, 2,50 m de haut, et c'est creusé dans la roche carrément, des roches épaisses de 40 cm d'épaisseur. Hein. C'était tout au marteau, tout à la massette, tout au... Et il s'était mis là à faire, il y avait mon grand-père et puis des voisins qui l'avaient aidé, mais ça je ne me rappelle plus très bien. Et donc cette conque, elle n'était pas étanchée, elle était naturelle. Ils avaient creusé sur une lame de rocher, tous les côtés, hein, ils avaient retaillé dedans. Et l'eau, elle suintait, et elle restait dans la conque. Ils l'avaient un petit peu étanché sur le bas, là, avec du ciment prompt. Mais bon, c'était vraiment de l'étanchéité, il n'y a pas les produits qui avaient là, encore une fois. Hein. Et cette source, elle servait, elle faisait 11 mètres de long, donc c'était quand même, il y avait une belle capacité d'eau. Et l'été, quand il ne pleuvait pas, parce qu'on restait quelquefois deux mois et demi sans eau, sans une goutte d'eau, on avait la chance qu'il pleuvait l'hiver, donc bon, les nappes phréatiques à ce moment-là étaient largement alimentées par la neige. Et je ne l'ai jamais vu tari d'ailleurs, cette source. Et l'été, on mettait les moutons à Josélas, donc il y avait des grandes étables. On stockait le fourrage là-haut dans la ferme, dans le grenier. Et il y a la source juste en bas, en contrebas de la maison. Donc il y avait tout sur place. Donc c'est, pour vous revenir à l'histoire, c'est que mon grand-père, quand Josélas avait été mis en vente, le Nilan, donc on appelait le Nilan, le voisin Ferdinand Clément, avec la Clémence. Ferdinand Perret, pardon. Et Clémence Perret était très intéressé pour acheter la maison. Lilan était très intéressé, sauf que mon grand-père était très intéressé aussi. Alors, le problème, c'est que mon grand-père était très ami avec l'ancien propriétaire et la famille. Il connaissait bien la famille. Et puis, un beau jour, comme ils disaient à l'époque, ils avaient fait patch. Mon grand-père avait réussi à acheter la maison. Il s'était saigné parce que l'argent ne courait pas les rues. Et donc, du coup, ils étaient obligés de. Tant bien que mal, ben, ils avaient fait un crédit, ils s'étaient fait prêter d'argent, je ne sais pas comment ils avaient fait, ils avaient un peu d'argent, une lessiveuse peut-être, je ne sais pas. Et puis, ben, ils avaient réussi à acheter la maison. Et le problème, c'est que le Nidan, Ferdinand Perret, quand il avait su ça, oh, il était en colère, il était venu voir le grand-père et il avait mal traité, quoi. Hein. Donc ça avait semé un peu la discorde dans le voisinage, quoi. Et puis bon, ben voilà, après les années passent, et puis c'était comme ça, quoi. Hein. Donc mes grands-parents, se fréquentaient plus avec ce Ferdinand Perret. Mais moi j'allais les voir comme si de rien n'était, parce que moi j'étais même pas au courant de l'histoire. J'avais 10 ans, 8 ans. Après j'ai pas bien sûr, j'ai vieilli, mais je connaissais pas l'histoire. Moi c'est Eliane qui me l'a raconté, tout ça, mais sinon. Mon grand-père ne me l'avait jamais raconté non plus, et c'est vrai que je regretterai toute ma vie de ne pas avoir été assez curieux vis-à-vis de mes grands-parents, parce qu'ils auraient pu me raconter des histoires. Ouais, j'étais un peu. Ouais, puis après, bon, je suis arrivé à l'âge de. Après, quand je suis arrivé à. Bon, après, je suis parti, je suis venu à l'école à Montboin. Bon, j'ai fait mon cycle scolaire à Montboin jusqu'au CM2. Après, je suis parti 2 ans à l'école à Buis, au collège de Buis, parce qu'à Sceaux, le problème pour aller me chercher tous les jours, c'était 2000 pensionnats, c'était pas possible. Donc j'avais été deux ans pensionnaire au collège de Buis, collège du Coquillon à Buis. Et puis au bout de 2 ans, ben, comme à l'école, bon, c'était pas trop ma tasse de thé, ben, il a fallu trouver une solution. Et comme les parents de Léo là, m'accompagnaient, bon, jamais lâché, hein, ils m'ont toujours, quand ils voulaient me demander des conseils, parce que bon, mes parents habitaient vers Gaulle, pour s'en occuper, c'était compliqué. Pour eux, c'était un peu difficile. Donc, du coup, les parents de Léo, ils disent, mais tu devrais aller faire un CAP de mécanique, hein, parce que quand Léo, le père de Léo était mécanicien, était maréchal fer à l'époque. Et moi, je ne l'ai pas connu, par contre, après, bon, il s'est remis un peu en question, il faisait la mécanique automobile, il faisait surtout tous les B2 qu'il y avait à Montboin, qu'il y avait à l'école, des petits B2, là, tu te rappelles, de Boucard, de Gabriel Delorme, de Jacques Passet de Meyer. Ils avaient tous des petits B2, c'était les premiers tracteurs agricoles de l'époque à Montboin. Hein. Et bien c'est lui qui les fabriquait, qui les montait, il restaurait des vieilles voitures, il refaisait, il mettait des pneus agricoles dessus, des pneus de tracteur, et puis ben, les gens occupaient le fourrage avec, transportaient avec des petites remorques, et puis ben, ça les dépannait énormément. Et donc moi, dans son atelier, il fabriquait des pièces avec le tour, il avait une machine pour percer le métal, il faisait la forge, il était très fort en forge, il faisait beaucoup de mécanique, donc moi j'étais, le soir j'arrivais de l'école, j'avais des multiplications, des tables de multiplication à prendre, et la maman de Léo me tenait le maximum pour pouvoir prendre les leçons, parce que c'était compliqué, et dès que j'avais fini, hop, je descendais à l'atelier, et je passais ma vie dans l'atelier avec Romain. Quand je pouvais, je lui donnais un coup de main, mais bon, moi c'était plus un passe-temps, puis je voyais tous les membres brûlants là, qui venaient discuter, dire des choses et d'autres sur la vie de mon moine, hein, voilà, tout simplement. La vie politique, j'en ai entendu parler, hein, à cette époque-là. Hein. Et donc après, il a fallu trouver une solution, parce qu'à l'école, c'était un peu le début de la fin, puis j'en avais marre à vie, donc... Donc je ne sais pas si c'est eux qui s'en sont occupés, mais bon, ils m'ont inscrit au CAP au collège Henri Fabre à Carpentras pour faire un CAP de mécanique générale. Donc je suis arrivé là-bas, j'arrive de Bergol, donc c'était un peu compliqué, quoi. Je me suis habitué, tant bien que mal. Hein. Et puis j'ai passé mes 3 ans, j'ai eu mon CAP, et puis après vivement que j'arrête, parce que j'aurais bien aimé continuer, je me débrouillais bien. Sans être une élite, mais bon, ça me plaisait beaucoup, surtout. En essayant de dire, je me débrouillais bien, et puis j'aurais peut-être aimé continuer à faire un BTS, c'était un bac mécanique, hein, et puis finalement, mes parents n'avaient pas trop les moyens, bon, du coup, j'avais abandonné, j'avais arrêté, donc je suis rentré à Bergol. Hein. Alors là, ça a été un peu plus compliqué, parce que mon père, il voulait pas que je parte. Hein, et... Alors moi, je voulais pas rester, parce que je le voyais vivre un peu cher dans la pauvreté, dans la survie, hein, parce que c'est la survie. Hein. Donc je savais à quoi m'en tenir, donc mon avenir était... Alors mon père avait fait l'effort d'acheter un tracteur à 70, donc j'avais 14 ans, hein, 15 ans. Parce qu'il savait que s'il voulait me tenir à Bergol, il fallait un peu se moderniser. Hein. Bon, après, toujours en tenant compte des moyens financiers. Hein, parce que... Et puis moi, je voyais que les années passaient, et puis 16 ans, 17 ans, 17 ans, bon, j'ai arrêté, j'ai fini à Carpentras. Hein. Et puis, il fallait trouver quelque chose. Et puis, Robert et Oliva, donc les parents de Léo et Jean-Élie, il dit, mais il te faut trouver quelque chose. Moi, je vais pouvoir trouver quelque chose.
Pourquoi est-ce que Bergol est tellement spécial?
Mais c'est pas spécial, c'est que j'ai vécu une grosse partie de ma vie et je garde de très bons souvenirs et j'y retourne. C'est spécial parce que par rapport au moins, c'est une vie spéciale, voilà, sur tout ça. Pas d'eau, c'est des conditions de vie quand même qui étaient très difficiles. Moi j'en ai pas trop souffert, si on peut dire, entre guillemets, parce que moi je suis parti jeune. Hein. Quand je voyais mes parents et mes grands-parents vivre dans ces conditions, j'avoue que j'ai toujours ce respect d'avoir connu ça, parce que de voir dans les conditions où ils vivaient, même que j'étais petit, j'étais jeune, mais je les voyais faire, hein, et après j'ai eu la chance de connaître autre chose, hein, parce que pour moi c'est une chance. Hein. Je voyais comment les autres vivaient, donc il y avait un fossé énorme entre les deux, et ça on pourra pas me l'enlever, quoi. J'en mesure aussi les effets aujourd'hui, dans la vie active de tous les jours, et je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont plus du tout, qui n'ont plus lieu d'être, quoi.
Gens là-haut, ils sont un peu...
Non, c'est-à-dire eux, alors les gens qui vivent à Bergol maintenant, c'est des gens qui, pour la plupart... Mais ils ont leur vie, ils ont toujours été très très sympathiques avec nous. Nous, on n'a jamais eu de problème avec eux. Nous, on était issus de mes parents, mes grands-parents. Mes grands-parents étaient partis quand ils sont arrivés, mais mes parents, ils ont toujours été très accueillants. Quand mes parents et quand ma mère se retrouvait seule, ils ont toujours été là pour accompagner ma mère à faire les courses. Quand moi, je ne pouvais pas le faire ou quoi que ce soit, ils ont toujours été très très sympas. Hein. Ils ont des vies différentes, bon, ça ne m'a jamais gêné du tout. Hein. Ces gens, moi, j'ai gardé de très très bons souvenirs. Ils ont toujours été très corrects avec nous, hein, franchement. Alors, quand on avait besoin de quelque chose, on n'avait pas besoin de... Ils étaient vraiment très sympas, même des coups de main pour agricole ou quoi que ce soit. Ils étaient vraiment. Ils n'ont jamais fait de différence entre eux et nous, quoi, hein, voilà, tout simplement. Hein.
Non, je ne pense pas à des difficultés. Je pense que peut-être ils étaient un peu plus individualistes.
Ben, ils avaient leur vie à eux, parce qu'ils avaient fait des études, ils avaient ils arrivaient d'horizons différents. Ils avaient leur façon de vivre, leur façon de voir la vie à eux, mais ils n'en tenaient pas compte par rapport à ce que nous vivions, quoi, hein. Ils ont toujours été très corrects. Quoi. Très sympa, ouais. Franchement, quand on était à Vergol, quand les soirées d'hiver qu'on passait dans les années 70, hein, 70, 72, avant que je parte à SNCF, donc, il y avait une personne qui avait la télévision à Vergol, le seul, c'était Louis Jourdan, la maison des Murat. Et eux, par contre, ils disaient, ben lui, il s'appelait Louis Jourdan aussi. Là.
Comme toi.
On était
ouais, ouais, oui.
Louis Jourdan, mais on était parents. On était parents de lointain, mais on était parents.
C'est marrant, ça.
Et Louis Jourdan, par contre, lui, il travaillait à la DDE à Montbrun.
Ouais.
À l'époque, ça s'appelait l'équipement, peut-être différemment. Mais
l'équipement, oui.
L'équipement, c'était avec Francis Veux, avec Riel Darnaud, avec. Il y avait toute l'équipe très gentille, Jean-Li Carré, tout ça là. Et c'est lui qui avait construit le mur, le pont de Mic. Le pont de Courge. Tu passes le pont de Courge, tu continues, tu as la fontaine là où il y avait le pantrap à l'époque, tu continues, il y a le pont de Mic là. Et bien le parapet de mur, il avait été refait à l'époque dans les années 70, et c'est lui qui avait retaillé toutes les pierres. Et tu vois que c'est des pierres toutes carrées, tout ça, et c'est lui qui avait tout fait à la massette. Il était très très bon dans la taille de pierre. Et donc lui, pour la petite histoire, c'est que quand on avait fini de nettoyer les amandes et les noix, l'hiver, les parties de Belote, et bien le soir, on allait chez lui à la télé. Le samedi soir, on allait voir Léon Zitron, on allait voir La Piste aux Étoiles, on allait voir Jacques Brel. À la télé, et c'est le seul à Vergol. Donc il y avait deux motos, mon père avait la moto, et le nain, donc Eugène Rousse, il avait sa petite moto, il me portait, et mes parents allaient en moto, on allait tous les quatre voir la télé là-bas chez lui. Passer des soirées
énorme.
À voir ça.
Énorme.
Ça, c'était des moments, oh, des souvenirs comme ça, j'en ai encore. Hein. Il y en a encore pas mal, mais bon, c'était ce moment des souvenirs très très sympas. Voilà.